pour investir, la boîte à outils.
Charles-Antoine Pierre du cabinet Arsène, bonjour.
Bonjour.
Alors, on ouvre la boîte à outils avec ces fameux contrôles fiscaux. On a commencé à défricher un petit peu le terrain hier. On va continuer à tirer le fil avec vous, avec une forme de crash test quand même pour l'impôt sur la fortune immobilière. Il y a une hausse des contrôles en la matière en ce moment, semble-t-il. Quel est un peu l'état des lieux là en ce moment ?
Oui, en effet, Antoine. En tout cas, nous, on constate dans notre pratique de plus en plus de demandes à ces sujets-là. On pense que ça vient de deux choses. D'une part, la Cour des comptes qui a toujours pointé le rendement de l'IFI qui n'était pas assez important au regard de l'augmentation de la valeur du parc immobilier français. Et surtout, aujourd'hui, l'administration fiscale qui a de plus en plus de données qui arrive à recroiser beaucoup d'informations et donc peut plus précisément trouver les contribuables qui n'ont pas suffisamment ou pas déclaré leur fortune immobilière.
Bon, alors quelles sont les principales erreurs qu'on peut commettre justement en ouvrant un petit peu le processus ?
Je dirais que les trois principales, ça serait d'oublier certains biens, puisque encore un certain nombre de nos clients oublient que l'IFI, ça ne concerne pas seulement les contribuables mariés, paxés, mais ça concerne aussi les concubins notoires qui doivent déclarer conjointement leur patrimoine immobilier. C'est sûr que aujourd'hui, si vous oubliez de déclarer un bien, vous avez une prescription de 6 ans qui s'applique au lieu de 3 ans, donc on peut revenir assez loin. La deuxième chose, c'est bien sûr la valorisation. Aujourd'hui, les contribuables n'utilisent pas les mêmes méthodes en fait que l'administration pour valoriser leurs biens. Ils utilisent plutôt soit des valeurs de rendement, soit des données qu'ils trouvent en ligne sur des prix moyens au mètre carré, alors que l'administration fiscale, elle, finalement, a une méthode très particulière, très poussée, validée par la jurisprudence. Et le dernier point, c'est pour ceux qui ont des sociétés, c'est sur les passifs déductibles sur lesquels l'administration revient très régulièrement.
Bon, et est-ce qu'on peut déduire certaines dettes, certains encours de dettes, justement, de ce calcul ?
Pour les sociétés, en effet, on a un large choix de dettes déductibles. De toute façon, c'est seulement les dettes liées à l'acquisition ou la rénovation du bien immobilier. La vraie difficulté sur les sociétés, ça concerne les comptes courants d'associés. Aujourd'hui, il y a une présomption de non-déductibilité de ces comptes courants d'associés-là. Il y a des clauses qui ne le permettent pas. Toutefois, si le contribuable arrive à justifier que cet endettement par compte courant d'associé n'a pas effet principalement fiscal de minorer la base de l'IFI, il peut toutefois prétendre à déduire ce compte courant. Là où les contribuables finalement n'ont pas connaissance souvent d'une règle particulière, c'est que les comptes courants étant des prêts à terme, on ne peut pas déduire 100% de la dette chaque année ad vitam aeternam. On doit chaque année réintégrer un vingtième de...
Oups, je crois qu'on est en train de vous perdre. Bon, écoutez, on reviendra avec vous sur les explications concernant les contrôles fiscaux en matière d'IFI afin d'être complet. De toute manière, c'est la pleine période de déclaration. Donc, on va essayer de vous faire revenir les prochaines semaines pour un petit peu remballer tout ça et vous donner les meilleurs conseils.